La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième épisode de notre série consacrée jusqu'à jeudi à l'impertinent absolu qu'était Oscar Wilde. L'impertinent absolu, c'est le titre de l'exposition qui se tient jusqu'au 15 janvier prochain au Petit Palais à Paris. Mais c'est surtout, évidemment, la réunion des deux caractéristiques qui vont faire la gloire et la perte de l'écrivain irlandais, sa soif de beauté sans mélange d'un côté et sa propension à dire ce qu'il pensait, tout ce qu'il pensait de l'autre. Nous commencions de l'évoquer hier avec Daniel Salvatore Schiffer et continuerons de le faire aujourd'hui. Alors un seul grand roman dans la bibliographie de Wilde, qui est mort, il est vrai, très jeune, à 46 ans, en l'année 1900, tout rond. Mais ce roman est un classique, Le portrait de Dorian Gray. Il a été retraduit dans une version non expurgée par Anatole Tomsak, que je recevrai demain en seconde partie d'une émission, au cours de laquelle Tsvetan Todorov nous livrera son analyse de la trajectoire, de l'œuvre et de la vie d'Oscar Wilde. Enfin, jeudi avec Alain Jumeau, nous parlerons de son théâtre et en particulier de sa comédie Un mari idéal, avant de terminer notre semaine par des passages lus et commentés de textes de Wilde par l'universitaire Pascal Acquien. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la question centrale de son homosexualité. Je suis en compagnie de Charles Danzig, romancier, poète, essayiste, éditeur, traducteur de la pièce de Wilde « L'importance d'être constant » et auteur de l'introduction au catalogue de l'exposition du Petit Palais. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Il avait bien soin de cacher dans le creux de ses paumes ses doigts qui avait tellement souffert du hard labour, parce que vous ne savez qu'une part du hard labour, et de décortiquer les cordages de navires encore pleins de goudron. C'est atroce. Mais il était en cela, n'est-ce pas, l'ancien dandy, puisqu'il cachait ses anciens beaux ongles.
Bonjour Charles Danzig.
Bonjour Mathieu.
Vous connaissez, je pense, cette archive de Paul Fort qui date de 1953.
Oui, c'est une archive très étonnante. C'est là où Paul Fort raconte l'enterrement de Wilde au cimetière de Bagneux.
On va l'entendre tout à l'heure aussi.
Où il raconte que Lord Alfred Douglas s'est jeté dans la tombe dans une scène d'hystérie.
Oscar Wilde, pour vous, c'est une vieille histoire. Vous dites dans votre essai, à propos des chefs-d'œuvre publiés chez Grasset en 2013, qu'on vous a fait le procès de Wilde alors que vous étiez encore un enfant, vous aviez 12 ans à cette époque-là.
Oui, un peu, parce que j'avais une prof maoïste qui avait décidé d'instruire le procès de l'enfant de famille bourgeoise que j'étais. C'était une période un peu délirante et on m'a condamné. Toute la classe s'est mise à me conspuer. Enfin, c'était une chose assez étrange qui s'est produite.
À vous conspuer, vraiment ?
Oui, il y a eu
quand
vote.
Vous rentrez, il y a eu vote.
Et tout ça. Oui, c'était un bon procès.
Qu'est-ce qu'on vous reprochait ? De l'arrogance, peut-être ?
Oui, peut-être, probablement. Enfin, je ne suis pas arrogant du tout, mais les gens pensent que oui, il suffit de dire des choses en plaisantant et de ne pas avoir l'air pompeux pour être pris pour un arrogant. Enfin, bon, bref, il ne s'agit pas de moi.
Alors que c'était de la timidité, en réalité.
Je rougis.
On vous reprochait peut-être aussi... et ça, vous le dites également dans cette préface, de ne penser qu'à lire et à rire. Alors à rire, sans doute, mais à lire Oscar Wilde, j'imagine.
Ah oui, je dois dire que j'ai découvert Oscar Wilde par un livre qui n'est probablement pas le plus connu, qui s'appelle Intention, qui est un recueil d'essais dialogués. Et c'est d'ailleurs pour ça probablement que mon premier essai était dialogué et qui s'appelle La guerre du cliché. Eh bien, j'ai été très ébloui par Intention, où il expose sa philosophie de l'art. C'est le livre où il dit pour la première fois « La nature imite l'art ». Vous savez, cette phrase qui a été tellement reprise. C'est un livre sous forme de dialogue qui avait été très bien traduit en français par un bon écrivain oublié qui s'appelle Hugues Rebel, et j'avais été ébloui par ça. Vous savez, quand on... En fait, je crois que les grands... On se découvre soi-même dans les grands écrivains. On les découvre eux, bien sûr, mais tout d'un coup, ils ouvrent en nous des choses qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti très très fort avec Oscar Wilde. Et immédiatement, je suis entré dans une espèce de boulimie de lecture. J'ai voulu tout lire de lui, tout lire sur lui. Enfin, exactement comme quand on est amoureux.
Donc vous vous êtes mieux compris vous-même en découvrant Oscar Wilde?
Je pense. Il faut faire attention aussi à ça, parce que les séductions des grands écrivains et que parfois ils nous attirent tellement vers eux que on ne voit qu'un aspect de nous-mêmes à travers eux et qu'on oublie le reste.
Est-ce que, quand vous avez traduit ensuite l'importance d'être constant, vous vous êtes un peu plus rapproché encore de Wilde, parce que traduire quelqu'un, c'est devenir un petit peu lui. Est-ce que vous êtes devenu, ou est-ce que vous avez eu envie de devenir Oscar Wilde?
Non, pas du tout. J'ai traduit un autre livre aussi qui s'appelle Aristotle, l'heure du thé, qui était la première traduction de ses chroniques et de ses articles en France, qui était, dans une de ses chroniques, on trouve l'origine de l'expression ne tirez pas sur le pianiste, car il a fait une tournée de conférences en Amérique quand il était très jeune et très insolent, et il est allé dans le Texas, et il raconte, en l'inventant peut-être, qu'il est allé dans un saloon où il y avait ce panneau-là, et je crois que c'est lui qui a inventé cette chose-là. En tout cas, quand je l'ai traduit, j'ai vu ses défauts. C'est ça qu'on voit mieux, c'est-à-dire quand on lit, on a beau lire attentivement, on pénètre moins dans la chair même de la prose ou de la littérature. Et j'ai vu, d'ailleurs ça n'est pas grave qu'il ait des défauts, j'en ai aussi et tous les écrivains en ont. Et ce sont des défauts humains d'ailleurs. Par exemple, j'ai mieux vu, parce que peut-être que notre œil amoureux s'attarde moins sur les défauts quand il lit que quand on est vraiment au cœur de la traduction, j'ai mieux vu sa passion un peu lourde des adverbes. J'ai un peu vu une manie de qualificatif qui est un peu trop ornementée par moment. C'est-à-dire que le défaut de Wilde que j'ai vu mieux en le traduisant, c'est le décoratif. Je pense qu'il y a, s'il a un défaut, et vraiment c'est pour aller chercher un défaut qui n'est pas si grave, c'est l'esthétisme et le décoratif. C'est-à-dire que parfois il veut le joli pour le joli, lui qui parlait tellement du beau, par moment il se contente du joli. Le début du portrait de Dorian Gray, par exemple, qui est un chef-d'œuvre, le début du portrait de Dorian Gray est presque comique d'excès d'adverbes et d'adjectifs. Il décrit l'atmosphère, le soleil autour de la maison de Basil Hayward à Londres, avec l'odeur des fleurs, avec des adjectifs surchargés, des adverbes surchargés. C'était le côté décoratif, mais qui ressemblait un peu... Je crois que nos écrits ressemblent à nos corps. Et Wilde avait un corps un peu lourd. Et d'ailleurs,
exubérant.
Il faisait beaucoup de mouvements avec ça. Et puis, il portait des pochettes, des fleurs à la boutonnière. Et de temps en temps, dans son style, il y avait aussi des fleurs à la boutonnière.
Est-ce qu'il travaillait beaucoup, ce style, selon vous?
Probablement. Je crois que ces défauts-là viennent d'un excès de travail et précisément de travail d'ornementation. Il est mieux quand il est spontané. Je trouve que Wilde est vraiment à son meilleur dans les dialogues. C'est vraiment, et c'est là qu'on voit aussi que notre littérature ressemble à nos corps et à notre façon d'être. C'était un véritable homme de conversation et d'esprit dans le meilleur sens du terme. Et c'est dans les dialogues qu'il est le plus éblouissant, y compris dans ses romans qui sont très dialogués.
Par ailleurs, vous avez collaboré, je le disais, au catalogue de l'exposition actuellement en cours Oscar Wilde, l'impertinent absolu, au Petit Palais, c'est donc jusqu'au 15 janvier. Est-ce qu'il y a une pièce, un tableau qui vous a plus intéressé qu'un autre?
Je peux vous en dire deux, Mathieu. Il y a une chose qui est très frappante et je crois qu'on n'avait jamais vu, qui est la carte du marquis de Queensberry, qui est la fameuse carte où Queensberry a traité Wilde de sodomite avec la faute d'orthographe,
sodomite. Voilà. Et ça, c'est très émouvant.
Voilà. Et ça, c'était resté dans les archives judiciaires à Londres. Moi, je l'avais jamais vu. C'est émouvant à voir. Ce qui m'a le plus frappé en réalité, ce sont les caricatures. C'est-à-dire que vous rentrez dans cette exposition, vous voyez immédiatement des caricatures et qui sont des caricatures immondes, qui sont des caricatures homophobes. Le mot n'existait pas, mais on voit Oscar Wilde déhanché avec des poignets cassés, des fleurs partout, des lèvres épaisses. Il est ridiculisé immédiatement et c'est très très frappant de voir que cet homme qui a commencé à publier en 1890, immédiatement, il est très jeune, il y a des caricatures homophobes et il tombe en 1895. L'Angleterre a mis 5 ans à faire tomber cet homme. C'est très très frappant et c'est très rapide. Et donc ces caricatures, il y en a beaucoup, m'ont frappé. C'était une méchanceté inouïe, c'est le premier sur qui on faisait ça.
Mais on pourrait répliquer qu'il a cherché à se mettre en scène et à mettre en scène son personnage et que, d'une certaine façon, il a tendu le bâton pour se faire battre.
Certainement, mais pourquoi ça participe du préjugé de la société victorienne et de toute société, c'est que, par principe, un homme efféminé serait ridicule. Parce que efféminé, ça veut dire femme, et les femmes, c'est moins bien que les hommes. Donc, évidemment, un homme, c'est vrai, un homme efféminé, c'est pire que tout. Pourquoi est-ce qu'on devrait caricaturer un homme efféminé plutôt qu'un gorille, plutôt que, pourquoi est-ce qu'un homme efféminé est plus ridicule que Lino Ventura? Expliquez-moi ça, à part le préjugé de la société. Lui-même, effectivement, prêtait le flanc, mais d'ailleurs, je pense que, il a fait son procès en diffamation au marquis de Queensberry, en partie pour ça aussi. Il devait être exaspéré de voir qu'on le caricaturait. Et d'ailleurs, très vite, il y a eu aussi un roman satirique où il a été moqué, et ça a été un roman qui a été un très grand succès. Donc il a payé très vite.
On va continuer de parler de cette question-là. Mais pour terminer sur l'exposition, Charles Danzig, on découvre aussi Oscar Wilde, critique d'art. Bon, on savait déjà qu'il était critique d'art, mais là, c'est intéressant dans le sens où il y a le tableau et en dessous ce qu'il en a dit. Est-ce que quelque chose vous a choqué, et notamment le fait que peut-être un certain nombre des déclarations de Wilde par rapport à ces tableaux sont un peu à l'emporte-pièce? J'ai quelques exemples, si vous voulez. Quand il dit, par exemple, à propos d'un tableau de William Holman Hunt, « Comme étude de couleur, c'est superbe, mais il est difficile de s'intéresser humainement à cette paysanne égyptienne. » J'ai un autre exemple, au sujet d'un tableau, cette fois, de John Hodam Spencer Stanhope. « La couleur est un peu trop luxuriante, et on aurait éprouvé du soulagement à voir la jeune fille simplement vêtue de blanc. » Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de critique d'art quand on lit ces déclarations?
De critique, en tout cas.
Et de critique, oui, mais de salon, un peu.
Écoutez, d'abord, ce sont des extraits qui sont très astucieusement tatoués sur les murs du Grand Palais, donc ça n'est pas la chronique entière, la chronique fait plusieurs pages. L'emporte-pièce, moi, je suis pas tout à fait contre, parce que parfois, il y a des pièces à emporter. Il parle aussi de... On le voit, les tableaux qu'il critique sont excessivement critiquables. Quand vous entrez dans l'exposition et que vous voyez le merveilleux Saint-Sébastien de Guido Reni, qui est à l'entrée de l'exposition, il n'en dit que du bien, il a raison. Vous savez, il fonctionnait comme ça, et parfois, une certaine forme de partialité permet de faire comprendre les choses. Il me revient à l'esprit une phrase qu'il a dite sur le personnage de la petite Nell dans Dickens, où le personnage a des ennuis considérables, meurt, enfin, très larmoyant, et où elle dit, il faudrait vraiment un cœur de pierre pour assister à la mort de la petite Nell sans mourir de rire.
Nous avons été là-bas à l'église, je crois, à peu près 18 à 20, mais pas plus, et très peu de littérateurs. Il y avait son ami Ross, Robert Ross, venu d'Angleterre, et Lord Douglas. Ça nous faisait un contingent de 2 heures complets. Et quand nous sommes partis vers le cimetière, nous étions 13. Et quand nous sommes arrivés à Bagneux, à travers une petite pluie battante, nous n'étions plus que 6. Il est arrivé une chose tragique là. Sur quoi nous ne comptions pas et qui était un peu héroïque-comique plutôt. Lord Douglas prit de sanglots lorsque on déposa au fond de sa tombe, de sa fosse, Oscar Wilde. Il s'est jeté dedans. C'était très embarrassant, très ennuyeux, très bizarre. Nous avons cru d'abord qu'il avait glissé, mais pas du tout. Il s'est jeté sanglotant et faisant une sorte de Christ tombé, une croix sur le. Je lui ai repris la main, ainsi qu'un des fossoyeurs, et puis on nous a tirés par derrière, et enfin nous l'avons, lui, tiré tout boueux, et pendant il était assez, comme je le dis souvent, par des gens qui sont extrêmement élégants, il était un peu cigare de luxe, n'est-ce pas, et il était bien abîmé. Quand nous repartîmes, nous n'étions plus que ma femme, Madame Merrill, lui, le boueux, Douglas, Robert Ross et moi. Qui c'est? Les 6 dont vous parlez. Nous sommes loin des enterrements de Hugo et aussi glorieux de Verlaine.
Paul Faure, donc, qui raconte l'enterrement d'Oscar Wilde et l'étrange attitude tout de même de Lord Douglas, qui fait peut-être preuve, Charles Dantzig, d'un peu trop de théâtralité, vous ne croyez pas ?
Est-ce que ça s'appellerait une drama queen par hasard ? Écoutez, c'est très...
Parce que lui, il l'avait quand même bien abandonné, Oscar Wilde, son amant Lord Douglas.
Écoutez, celui qui s'est mal tenu dans l'histoire, c'est Douglas et c'est pas Wilde.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Oui, il s'est très mal tenu, mais c'était proprement parler, un hystérique. Non, ce qui est touchant aussi dans le son d'archives, c'est Paul Faure parlant au passé simple. Et ça montre comment, tout d'un coup, la langue écrite essayait de s'adapter à la langue parlée. C'était pas tout à fait les débuts de la radio, mais quand même, on parlait comme si on écrivait et nous partîmes. On dirait plus ça. Peut-être qu'on a tort. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais vous qui officiez sur France Culture, on ne l'a pas dit encore. Peut-être que vous devriez revenir au passé simple.
Passé simple.
Alors, vous avez intitulé votre préface à l'importance d'être constant, la première Gay Pride. Et ça nous permet de parler un petit peu de ce sujet si essentiel quand même pour Oscar Wilde, qui est l'homosexualité. Pourquoi ce titre, la première Gay Pride ?
Eh bien, parce que j'imagine que au moment du procès de Wilde, enfin, il faut dire que quand Wilde a été pris par les policiers, c'était en janvier 95, il triomphait à Londres, il avait deux pièces qui triomphaient en même temps à l'affiche, qui était une chose inouïe et qui ne s'était jamais vue, il avait un mari idéal et l'importance d'être constant qui triomphait. Il est tombé dans la minute, on l'a amené, et quand il a été amené après, enfin pas dans la minute, quand il a fait son procès en diffamation, quand on l'a amené, le jour où il a été emprisonné, 600 homosexuels, pour autant qu'on puisse les compter, mais c'est Yates qui raconte ça, ont pris le train de Londres pour Calais parce qu'ils fuyaient l'Angleterre, parce qu'ils avaient très très peur. Effectivement, ils se doutaient de ce qui allait arriver. Et d'ailleurs, on avait conseillé...
La migration, mais voilà. À l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui.
C'est ça, c'était le Brexit, mais homosexuel. Et d'ailleurs, on avait conseillé à Wilde de partir, il n'a pas voulu partir, il y a comme une espèce de recherche de martyr bizarre, comme ça. Eh bien, j'imagine que, voilà, si par hasard, ces 600 homosexuels anglais arrivant à la gare du Nord à Londres auraient pu se trouver presque le même jour où Paul Verlaine et Charles Cros ont été chercher Rimbaud à la gare, et je me dis que tiens, symboliquement ça aurait pu être la première Gay Pride.
Mais c'est peut-être aussi que cette pièce, l'importance d'être constant, c'est une moquerie des rapports hétérosexuels.
Oui, vous savez, je crois que le secret de Wilde, c'est que il a l'air d'un collabo et c'est un résistant. C'est-à-dire que c'est un auteur qui a l'air uniquement mondain, spirituel, léger, moqueur. Mais c'est beaucoup mieux que Noël Coward, c'est beaucoup mieux que Thierry Luron, qui ont d'autre part beaucoup de qualités. Mais Wilde, en réalité, il ne faut pas oublier que c'est un Irlandais et qu'il y a du sang anarchiste dans Wilde. Et toutes ces pièces, et comme vous le dites, l'importance d'être constant, sont parsemées de bombes de moquerie, non seulement sur les conventions sociales, britannique de l'époque, mais aussi effectivement sur les comportements hétérosexuels de base.
Et, comme par exemple
Enfin, tout est là, c'est-à-dire tous les hommes sont ridicules, tous les hommes sont pompeux, tous les hommes institutionnels, tous les personnages institutionnels sont risibles et assez bêtes. Et,
donc c'est moins tant l'hétérosexuel que la haute société, au fond.
Oui, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire que c'est les deux, c'est par exemple, il y a le personnage de Lady Bracknell, qui est ce si amusant personnage de tante de Constant, dit à un moment « Menteur, mon neveu Constant, impossible, il a étudié à Oxford ». Eh bien, ça, c'est le genre de choses qui n'ont l'air de rien, mais qui révèlent très typiquement les préjugés de la société victorienne.
Et les femmes, comment est-ce qu'ils les regardent dans cette société-là ? Est-ce qu'il est plus tendre avec elles qu'avec les hommes ?
Oui, je crois. C'est-à-dire que... En même temps, il est très difficile de parler de l'importance d'être constant comme d'une pièce réaliste. Là, on en parle comme... Enfin, moi, j'en parle comme si c'était une pièce réaliste, mais c'est une féerie. Mmh. C'est-à-dire, c'est une pièce d'abord très, très brillamment construite et faite et tout à fait improbable. Mais néanmoins, les femmes ont des meilleurs rôles car elles sont moqueuses. C'est elles qui organisent tout le temps le cheminement de la pièce. Et c'est grâce à elles que tout se passe. Les hommes sont beaucoup plus conventionnels et académiques.
Même si, à la fin de la pièce, ou à la fin d'un mari idéal, peut-être, il y a des jugements un peu à l'emporte-pièce sur le rôle des hommes et le rôle des femmes dans la société, là encore, et qui sont peut-être de leur temps.
Oui, mais ça, c'est pas lui qui le dit. C'est, je pense qu'il le dit par contre-pied. Ces personnages, c'est comme quand dans le portrait de Dorian Gray, il y a des conversations de salon qui sont tout à fait comme ça, où il fait dire des stupidités à ses personnages, mais c'est pas lui qui les prend en charge. C'est comme quand Proust fait parler Madame Verdurin. On sait bien que c'est pas Proust qui pense.
Alors, le 28 février 1895, alors que Wilde est donc en plein triomphe à cause d'un mari idéal qui remplit le théâtre de Haymarket, c'est ça ? Et de l'importance d'être constant, qui remplit, lui, le St. James Theatre. Voilà qu'arrive cette carte de visite du père de son petit ami, l'accusant de poser au Sodomite.
Alors, Sodomite,
il y a une
oui.
faute d'orthographe, je crois.
Il y a une faute d'orthographe. Et c'était donc le marquis de Queensberry qui aimait beaucoup la bagarre, car, comme vous le savez sans doute, le marquis de Queensberry avait codifier les règles de la boxe anglaise. Et c'était une très vieille famille, les Queensberry, qui était une famille à proprement parler de fous. Ils étaient tous fous, et d'ailleurs je pense qu'Alfred Douglas lui-même était fou. Dans un livre, Tacquerel, l'auteur de Barry Lyndon, raconte dans un livre de mémoire qui n'a pas été traduit en France, qui s'appelle Les Rois Georges, que un ancêtre du marquis de Queensberry, le marquis de Queensberry de l'époque, était déjà connu pour donner des gifles aux gens dans la rue, pour être excessivement agressif. Donc il y a un gène d'agressivité et de bêtises profondes chez les Queensberry. Et donc, Queensberry a été déposé cette carte et il entrait là-dedans, je pense. Et c'est une des raisons aussi de la chute d'Oscar Wilde, cette espèce de scandale que l'homosexualité dérangeait la norme sociale. C'est-à-dire que quand même, Wilde, même s'il était de bonne famille, son père était un chirurgien connu et célèbre même à Dublin, sa mère était une poétesse, mais enfin son père n'était jamais que chirurgien, c'était pas l'aristocratie.
Et puis que irlandais peut-être.
Et que irlandais. Eh bien, tout d'un coup, cet homme avait l'insolence de coucher avec un fils de Lord. Ça, c'était une chose qui scandalisait probablement beaucoup plus Queensberry que l'homosexualité de son fils, car d'autre part, l'autre fils de Queensberry était aussi homosexuel, ça, it runs in the family. Et l'autre fils s'est suicidé plus tard, car il avait été pincé, il avait couché avec le Premier ministre, enfin, celui qui allait devenir Premier ministre, Rosebery. Donc, en fait, tout ça, le social se mélange à la sexualité, c'est une des grandes hypocrisies de l'Angleterre victorienne, c'est que l'Angleterre victorienne, on pouvait faire beaucoup de choses à condition de respecter les hiérarchies sociales et d'être caché. N'oubliez pas que c'est à cette époque-là qu'a écrit, qu'un aristocrate anglais anonyme a écrit 3000 pages d'un livre qui s'appelle Ma vie secrète, qui a été publié après sa mort avec grand succès bien des années après, où il raconte par le menu ses aventures sexuelles et il couche avec tout le monde et il fait des enfants aux bonnes, etc., etc. Et ça, c'est typique de l'hypocrisie victorienne.
Et jusqu'au petit-fils de la reine Victoria, le duc de Clarence, oui. Qui est exfiltré en Inde.
Oui, parce qu'il y a eu en 1889, on découvre un bordel de garçons, on découvre que le duc de Clarence y participait à ses orgies et que ça engageait des petits télégraphistes. Et en fait, ce qui choquait là aussi, c'était moins le bordel, enfin c'était le bordel, mais c'était aussi les petits télégraphistes. C'est que tout d'un coup, le petit-fils d'une reine couchait avec des petits employés.
Toujours est-il que suite à ce procès, Oscar Wilde est condamné à rien moins que 2 ans de travaux forcés.
D'abord, le procès, on peut se demander, en effet, ses amis disaient, mais ne faites pas ça, Oscar, c'est certainement un piège que l'on vous tend. Queensberry l'avait provoqué avec une note à son club, a fait ce qu'on... Queensberry est un personnage terrible, et Wilde, contrairement à l'avis de tous ses amis, fait ce procès. Il y a dans, je crois, Cécile Grandmeur, un passage de Gide, où il évoque une conversation avec Wilde 3 mois avant à Alger. Et Gide, sachant que le scandale est déjà considérable et que Queensberry veut absolument faire éclater le scandale contre Wilde, le ruiner socialement, elle lui dit « Faites attention, Oscar ». Et dit Gide, Wilde lui répondit d'une façon très mystérieuse « Non, il faut aller plus loin, André. Non, je ne m'arrêterai pas. Il faut aller plus loin, toujours plus loin. Et ce plus loin, en vérité, là où il s'est retrouvé, c'était C3-3, Géol. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait en lui ? Est-ce que c'était le goût ultime de la provocation ? Est-ce que, parce que c'est un dramaturge, c'est un auteur dramatique, il avait là une sorte d'intrigue complexe dont il était à la fois l'auteur et l'acteur principal, puisqu'il est interrogé, d'ailleurs perdu, au cours de cette scène judiciaire à l'Old Bailey. Est-ce que c'est ce désir, comme ça, de jouer, comme une sorte de roulette russe, sa vie dans ce procès, en se disant, ben, je serai quand même le plus habile, je suis si brillant, et finalement je ferai condamner le marquis de Queensberry pour avoir dit que j'étais homosexuel, alors que je le suis par la justice anglaise, que par ailleurs, qu'elle n'avait pas, j'imagine, une considération particulière. Est-ce que c'est ça qui l'a fasciné ? Est-ce que c'est plus profond ?
Robert Badinter au micro de Jean Lucès, c'était le 11 octobre 1995. Et c'est vrai qu'on peut se demander, Charles Danzig, pourquoi Oscar Wilde s'engage dans ce procès qui paraît perdu d'avance.
Je crois qu'il y a probablement deux choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un sentiment d'impunité est monté à la tête de Wilde, puisqu'après tout, il vivait comme il vivait, personne ne l'embêtait, et puis le succès considérable qu'il avait, et il s'est cru impuni. Donc il a été excessivement imprudent et même candide d'une certaine façon de faire ce procès. Et d'autre part, je pense que ça engage quelque chose de plus profond et qui est la honte. À la même époque, Marcel Proust, homosexuel, fait un procès à Jean Lorrain, le romancier, journaliste, lequel a insinué dans un article que Proust était homosexuel. Or, Jean Lorrain l'était. Ils font un duel. Quelle est l'espèce d'étrange admission de la règle générale de la société qu'un homosexuel fasse un duel à un homosexuel alors qu'il l'est, qu'il ne veut pas que ça se sache? Eh bien, Wilde, c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il avait fini... Vous savez... L'intérieur des placards est toujours très confortable. On finit par ne plus voir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, il avait fini par croire que, effectivement, puisqu'il ne le montrait pas, il n'était pas homosexuel. Je pense que ça, et ça, c'était, il avait assimilé la honte. N'oublions pas que Wilde, dans Intention, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, a écrit un très brillant article sur la vérité des masques. Très brillant, très paradoxal, comme il le fait souvent, et très convaincant. Il pensait que la vérité était dans le masque. Il pensait que son masque cachait les choses. Et ça, ça participe, non pas de lui, c'est une forme de folie, mais qui est une folie imposée par la société. La société était inhumaine. Quand on est obligé de se cacher, ça pousse à des comportements aberrants comme celui-là.
Mais est-ce que la question un peu anachronique de la cause homosexuelle peut entrer en ligne de compte dans cette démarche ?
Pour lui, vous voulez dire de sa part ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'il a pensé à... Non, je pense qu'il...
C'est pour lui, enfin.
C'est pour lui,
c'est-à-dire qu'il agit comme ça pour lui.
C'est-à-dire qu'il était tellement persuadé que son masque le cachait, qu'à l'intérieur de son placard, il était autre chose que ce qu'il était. C'est qu'il a pensé qu'il était réellement diffamé quand on le traitait de sodomite qu'il était. Donc, au fond, c'est même le contraire de la cause. Il entrait en plein dans le cliché, le comportement imposé par la société. Je pense d'ailleurs que Wilde est coupable. Il est coupable de faire ce qu'il a fait, mais il est coupable aussi vis-à-vis des homosexuels. Et ça, c'est une chose que j'aurais pu dire derrière dans ma préface et qui m'est venue assez récemment. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un martyr. Évidemment, ce qu'il a subi est ignoble. On a eu besoin de ça. On en reparlera peut-être. Mais en même temps, c'est à cause de ça qu'il a terrorisé tous les homosexuels anglais pendant très longtemps, que l'Angleterre a attendu, je crois, 1967 pour abolir les lois anti-homosexualité. Tous les homosexuels anglais étaient terrorisés, allaient vivre en Italie,
avec raison, parce que par exemple, des gens comme Alan Turing dans les années 50 ont également subi un procès, castré chimiquement. Donc, ils avaient raison d'avoir peur quand même, les homosexuels
anglais. Oui, ils avaient raison d'avoir peur, mais la question que je me pose, c'est est-ce que la société n'est pas devenue encore plus impitoyable à cause de l'inconséquence de Wilde qui a fait ce procès ? Si Wilde n'avait rien fait, qu'il était resté tranquillement à laisser cette espèce de vieux con l'injurier et s'en ficher, il aurait eu des triomphes et les homosexuels auraient eu une vie beaucoup plus confortable. Là, la société a vu qu'elle pouvait faire tomber un homme d'un grand talent et sinon de génie. Quand on voit quelqu'un d'un talent pareil tomber, la société se sent tout permis.
Mais du coup, faut-il ne rien faire et continuer de se cacher? C'est ça finalement la question qui est posée.
Bien sûr qu'il ne faut pas. Et d'ailleurs, Wilde est allé au maximum de la provocation où il pouvait aller à son époque. Que pouvait-il faire de beaucoup plus? Verlaine, au même moment, écrivait des poèmes où il racontait à peu près ouvertement ce qu'il était. Mais c'était des poèmes, c'est lu par 100 personnes. C'est pas des pièces de théâtre qui sont vues par des dizaines de milliers de personnes.
Il faut peut-être rappeler aussi que dans les années 1870, alors que l'homosexualité était jusque-là considérée comme étant du libertinage, ça devient quelque chose qui est médicalement analysé et on commence à interner les homosexuels dans des asiles. Donc il y a tout un contexte quand même aussi à ce moment-là.
Le mot apparaît à ce moment-là. C'est un mot autrichien qui est un mot médical et qui consiste à nommer une chose d'un mot qui désigne une maladie, en quelque sorte. Donc effectivement, l'état d'esprit général, et ces gens, d'ailleurs, pensaient plutôt bien faire, il s'agissait de désigner des gens qu'il fallait soigner. On sait très bien que les premières interprétations de Freud, aussi libérales qu'il ait été, c'était une chose où c'était une déviation qu'il s'agissait de soigner. Et tout ça, ça vient du fait qu'une vague de morale épouvantable s'est abattue sur le monde, à la fois médical, hygiéniste et moraliste, dans les années 1850 et au-delà.
Mais est-ce que ça n'a pas, ce durcissement, créé aussi une littérature nouvelle, et notamment une littérature nouvelle de l'homosexualité, une nouvelle façon d'écrire sur ce sujet?
Ça a créé une façon terrible d'écrire sur le sujet, car si vous voyez ce qui s'écrit de plus proche là-dessus, juste après le procès de Wilde, c'est Marcel Proust et le personnage de Charlus, et enfin, le passage fameux de Marcel Proust où il dit « race maudite, race maudite ». Et ça, c'est Wilde et ce procès qui ont ancré ça. C'est une littérature du malheur.